Madame Julien, il faudra attendre la fin de l'année 1789 pour voir le premier acte révolutionnaire à Saint-Antonin. Quelle musique va évoquer cet éveil du peuple saint-antoninois?
Nous écouterons, comme il se doit, des chants révolutionnaires. Le premier, le Ça ira, fut écrit dès le début des journées révolutionnaires. Il était assez anodin, malgré les paroles du dernier refrain, qui furent d'ailleurs ajoutées par la suite. C'est celui-ci que nous entendrons. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates, on les pendra. Le second chant est très différent car il répond aux trahisons de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Monsieur Veto, c'est le roi, avait promis d'être fidèle à son pays, mais il y a manqué, ne faisant pas de quartier. C'est la Carmagnole. La carmagnole à l'origine est une veste courte à basque, à grand collet avec plusieurs rangées de boutons de métal venues du Piémont et importée à Paris par les fédérés marseillais en 1792. C'est de cette année-là que date le chant, quand Louis XVI fut incarcéré à la prison du Temple. On en ignore l'auteur. Mais la carmagnole connut une vogue prodigieuse et ses refrains accompagnèrent souvent les exécutions capitales. Bonaparte, devenu premier consul, l'interdit en même temps que le Ça ira.
Monsieur Julien, nous sommes le 6 septembre 1789 et c'est un jour très important à Saint-Antonin.
C'est un jour important duquel on peut dire que date l'éveil du mouvement démocratique à Saint-Antonin. Ce dimanche 6 septembre 1789, qui était le premier dimanche du mois, le conseil de ville est réuni pour procéder à la traditionnelle élection consulaire suivant l'usage et la coutume. C'est, nous le savons, une parodie d'élection à l'occasion de laquelle les 4 édiles, maire, lieutenant de maire et les 2 consuls, avec leurs 8 prud'hommes, qu'ils ont choisi eux-mêmes soigneusement, vont désigner les remplaçants des 2 membres, le maire et le premier consul, qui obligatoirement sortent de charge. Depuis des années, nous le savons, cette élection, jadis si solennelle, se déroule quasiment à huis clos entre gens de la bonne société et dans l'indifférence générale. Il n'y assiste plus personne maintenant. On sait bien qui va remplacer qui et que ce seront toujours les mêmes notables, une dizaine tout au plus, qui viendront ou reviendront au premier rang. On dit d'ailleurs maintenant, on ne dit plus élection consulaire depuis déjà des années, on dit mutation consulaire. Rien que le terme déjà est significatif. Ce jour-là donc, 6 septembre 1789, après les vêpres, on est allé à vêpres avant, on se prépare à procéder à la mutation consulaire dans la maison commune, l'actuel musée. Curieusement, ce jour-là, l'assemblée est beaucoup plus nombreuse que d'habitude. Et presque tous les 24 conseillers politiques sont présents. Il y en a exactement 23 sur 24. Le procureur du roi et de police, qui s'appelle Pommiès, le fameux Pommiès dont nous avons déjà parlé, requiert, selon l'usage et l'arrêt du conseil du roi de 1782, que l'élection proposée par monsieur le maire soit faite en la forme usitée. Aussitôt, à l'instant, dit le greffier qui a rédigé le procès-verbal, 10 membres délibérants, marchands, artisans et brassiers, représentent à l'Assemblée que...
Oui, mais monsieur Julien, à quel titre ces hommes du peuple prennent-ils la parole?
Ben, ils s'en sentent le droit, sans doute. D'abord, le conseil politique est au complet, je l'ai dit, 23 sur 24, qui ne s'était jamais plus produit depuis peut-être 1623. Hein? Tout d'un coup, aujourd'hui, ils sont là, presque tous présents. Et sans doute, avant d'assister à l'Assemblée, certains d'entre eux, les 10 justement dont il est question, c'est-à-dire près de la moitié, ont tenu conseil en dehors, sur la place, ou peut-être les jours précédents, et ils ont décidé de frapper un coup. Et qu'est-ce qu'ils font?
Oui, mais il y a bien longtemps, à Saint-Antonin, vous nous disiez que les doléances du peuple n'étaient plus inscrites sur le cahier des, sur les registres consulaires.
Ah ben oui, parce que c'était inutile. On savait qu'on n'aurait pas gain de cause. Nous savons que c'était toujours les mêmes personnages. Si vous voyez la liste des gens qui se sont succédés au poste de maire ou de consul depuis Louis XIV, vous verriez que c'est, comme je l'ai dit ci-dessus, tout au plus les représentants d'une dizaine de familles. Et ils ont tout pouvoir. D'autre part, ils s'arrangent, bien entendu, pour que, par persuasion ou par des moyens peut-être contraignants, les gens ne viennent pas. De toute façon, ça se passe ainsi. Et puis, nous le savons bien, quand la démocratie n'existe pas dans un lieu, les gens qui en sont les premiers, qui sont les premiers intéressés à cette démocratie, c'est-à-dire les hommes, eh bien, ils laissent, ils abandonnent, ils s'abstiennent, comme on dit, hein. Et nous en avons des exemples tous les jours aujourd'hui. Quand on sent que ça ne marche pas, on s'abstient. Il n'y a rien à faire. Mais maintenant, ils sentent, sans doute, qu'il y a quelque chose à faire. Parce que des nouvelles sont arrivées d'ailleurs. Et ils ont vu qu'ailleurs, à Paris en particulier, des mouvements populaires ont obtenu un résultat. C'est sans doute pourquoi ils ont pris cette audace de parler. Et que disent-ils? Eh bien, c'est le greffier chargé d'enregistrer le procès-verbal qui nous le dit. Voici en quels termes. La majeure partie des citoyens désire que l'élection consulaire ne soit faite selon l'ancien usage, attendu qu'il facilitait aux consuls qui sortaient de place le moyen de se faire remplacer par ceux que bon leur semblait, que c'était un abus qu'il fallait réprimer, surtout dans la conjoncture présente. Voilà où nous y sommes, hein. Qu'ils étaient chargés, eux, ces 10 contestataires, de la part de la majorité, ça veut dire la majorité de la population, de changer cette forme aussi ancienne qu'abusive et d'arrêter dans le moment que l'élection sera faite librement à la pluralité des suffrages et par scrutin. Ça veut dire que, désormais, on ne souhaite plus que les 4 consuls et leurs 8 prud'hommes aillent s'enfermer à double tour de clé dans la petite chambre de la Tournelle pour là préparer savamment leur petite cuisine électorale. Il faut que ça se fasse dans la grande salle, hein, à la pluralité des suffrages et au scrutin. C'est un langage nouveau quand même, ça, hein, qui surprend les gens en place. Et on voit d'ici la scène, ce qui se passe, c'est la stupeur. Les notables, là, vous les voyez là, tous alignés, derrière la table, la bouche ouverte, les yeux écarquillés, qu'est-ce qui se passe? Alors le premier moment de saisissement passé, on bafouille, on tousse, sans doute un petit peu dans les coins, et puis enfin on demande, on pose, on discute, on ergote, et alors l'assemblée s'anime, elle s'agite. Alors nous dit-on, c'est pas trop que décider, on est hésitant, oui, mais voilà. Tandis que, et je cite à nouveau le procès-verbal, tandis que nous étions occupés à délibérer sur la manière dont il convenait de procéder à la nouvelle élection consulaire. Voyez un peu, ça dure depuis un moment, là, hein. On tourne autour du pot. Jean Revel, dit Kerl, porteur de cette ville à Montauban, porteur ça veut dire courrier, messager, accompagné de 4 ou 5 personnes, est entré dans la salle, son bonnet sur la tête, en chemise, sauf d'un petit gilet sans manches, tout débraillé et dans un état le plus indécent. Il a été bientôt suivi de plusieurs autres personnes qu'il avait été chercher à la porte du pré, où la jeunesse dansait au son du tambour et du fifre. Plusieurs de ceux qui le suivaient ont resté dans l'escalier de cet hôtel de ville. Dès qu'il a été dans la salle dans laquelle nous étions avec plusieurs membres du comité de sûreté patriotique et plusieurs conseillers de ville, le dit Revel a demandé d'un ton haut « Quel est celui qui gouverne la communauté ?» Et il a ajouté qu'il venait de la part du peuple pour confier les consuls en pleine place, qu'on ne voulait ni nobles, ni avocats, ni bourgeois, mais des artisans, des gens de la campagne, et par dérision, il a nommé quelqu'un de la lie du peuple. Sur quoi, lui ayant enjoint de vider la salle et de laisser l'assemblée tranquille, il a refusé de sortir, invitant à haute voix ceux qui le suivaient à entrer dans la salle, ajoutant qu'il voulait ainsi que sa troupe, que la nomination se fît au précommun, et que si on ne voulait pas y consentir, il avait à sa disposition 50 grenadiers prêts à forcer l'assemblée, qui devint tumultueuse, ajoute le greffier. Alors, vous voyez ce procès-verbal, hein, rédigé après coup. C'est un procès-verbal qui n'est pas rédigé tout de suite. Il sera rédigé un mois après. Quand la peur passée, le nouveau maire, Berry, engage le 6 octobre suivant des poursuites contre Revel. Ce procès-verbal, il mériterait une analyse détaillée, mais je vous laisse le soin d'y penser. Il nous permet en tout cas d'affirmer que le 6 septembre 1789 marque le début de l'ère révolutionnaire dans notre ville, toujours lente à suivre le mouvement. Cette entreprise, ce coup de force de Revel, c'est la première atteinte sérieuse à l'ordre établi à Saint-Antonin. C'est la première insurrection populaire contre le pouvoir en place, contre les privilégiés. C'est la première manifestation de la démocratie réelle. C'est, si vous voulez, pour nous Saint-Antoninois, notre prise de la Bastille. Et Revel ne quittera pas la salle. À son appel, un nombre infini de bas peuples, dit le procès-verbal officiel, quel mépris quand même, s'attroupe, tant sur la place que dans la maison commune, sous le regard impuissant du maire qui n'a d'autre solution que de lever précipitamment la séance dans le brouhaha, les vociférations et bien entendu sous les injures. Vous savez que le maire, il devait pas être fier. On a dû longtemps discuter dans les auberges et les estaminets de Saint-Antonin ce soir-là, et Revel a sans doute été pour un temps le héros du jour, celui qui avait osé, parce qu'il savait, lui, il savait, c'était le porteur de lettres et de messagerie, il était placé mieux que quiconque pour recueillir et apporter ces fameuses nouvelles de Paris et de ces insurrections populaires qui avaient marqué la vie de la capitale. Il était au courant. Et soyez tranquille, dès qu'on le pourra, on tâchera de réduire ce meneur au silence.
On tâchera de réduire ce meneur au silence, disiez-vous, monsieur Julien. Qu'est devenu Revel?
Ah, ben, il s'est bien porté. Et on essaiera évidemment de le faire révoquer par le préposé, et je ne sais pas quel était son nom, le ministre des Postes, si vous voulez, mais ce n'était pas le nom qu'il avait. On enverra une requête aussi au ministre d'État. On se plaindra auprès du gouverneur de la Guyenne, on se plaindra auprès de l'intendant, on fera un dossier énorme, et finalement, 2 ans après, en 1793, nous retrouverons ensemble Revel, vous voyez, qui est toujours porteur, on n'a pas pu le limoger.
Est-ce que cette amorce du mouvement révolutionnaire a lieu également à la même époque dans les villes voisines?
Oui, vraisemblablement, comme toujours, nous sommes associés maintenant à la vie nationale et les événements, vous l'avez vu pour la grande peur, les grands événements qui sont la conséquence des événements parisiens se produisent ici dans la région à peu près simultanément. Une exception peut être faite sans doute pour la ville de Montauban, qui est toujours entre les mains, au point de vue municipal, entre les mains de royalistes. Nous verrons d'ailleurs qu'en 1790, cela provoquera des incidents très regrettables. Mais pour tout le reste, nous pouvons considérer, c'est un peu comme la grande peur, ça se propage, hein, ça se passe à Saint-Antonin, ça se passe ailleurs. Mais toujours en conséquence des événements parisiens. Bon, le lendemain, la séance interrompue est reprise. Et alors, chose curieuse, on la reprend à 9 heures. C'est absolument exceptionnel, parce que les séances du Conseil de ville se tenaient toujours, en général, l'après-midi, à partir de 4 heures, 5 heures de l'après-midi, après les vêpres le dimanche. Ce jour-là, on la tient à 9 heures. Et ce n'est pas innocent, ça. Le maire se méfie. Alors, 9 heures, on est sûr que le bas-peuple, comme ils disent, et ses jours de travail, il sera au travail. On en verra moins. Bon, la séance est reprise et le maire annonce aussitôt la démission de Perret, qui était lieutenant de maire, et de Sabi, qui était second consul, et qui devait, selon l'usage, rester en place, eux, pour monter d'un rang. La nuit leur a porté conseil. L'affaire est entendue. Les démissions de ces deux personnes sont unanimement acceptées et l'on décide aussi unanimement de procéder librement à la pluralité des suffrages et par la voie du scrutin à la désignation des quatre officiers municipaux. On ne discute plus maintenant. La peur qu'a semée Revel est salutaire. On donne raison aux 10 intervenants du début de la séance précédente. La démocratie triomphe, au moins en apparence, puisque les billets, nous dit-on, ayant été reçus, comptés et ouverts, la pluralité des suffrages, voilà les termes mêmes du procès-verbal. Donc il y a bien eu vote par bulletin, il y a bien eu scrutin, et il va bien y avoir élection à la pluralité. Alors, la pluralité des suffrages s'est portée pour le poste de maire sur Jean-François Berry, avocat, procureur du roi. C'est lui, vous rappelez-vous, qui a fait emprisonner Poux et la femme du Roc. C'est un terrible, celui-là. Le voilà maire. Mais il est élu à la majorité. Pour le poste de lieutenant de maire, les voix se sont portées à la majorité sur Antoine Ricard, ce notaire dont j'avais dit déjà que sa signature était précédée des trois points maçonniques. Pour le poste de premier consul, les voix se portent sur Guillaume Sabi, procureur au siège de la justice royale de la ville. Oui, c'est un homme de loi. Il est très vieux dans l'administration, on le trouve depuis 10 ans, mais enfin on l'a élu. Enfin, comme second consul, les voix se portent unanimement là. À l'unanimité, on élit Pierre de Saint-Just, marchand. Voilà, un marchand, lui. On le voit. Il n'y a pas un bouleversement dans la qualité sociale si l'on accepte l'entrée au consulat du marchand Saint-Just. Et le fait que l'élection faite et le serment prêté, on n'est pas allé cette fois comme de coutume à l'église pour entendre la Sainte Messe. Voilà le changement. On n'est pas allé à l'église, on ne le dit pas. Traditionnellement, après l'élection, les conseils de ville, les quatre personnages officiers municipaux se rendaient à l'église où là, après une cérémonie religieuse, les nouveaux élus étaient dotés du chaperon et de la robe consulaire. Cette fois, on ne l'a pas fait.
Est-ce qu'on peut imaginer pourquoi cette fois, ils ne sont pas allés à l'église ?
Eh bien, sans doute maintenant, on perturbe un peu les cérémonies habituelles. On ne sait pas trop aussi s'il est indiqué d'aller à l'église. On ne sait pas si en revenant de l'église, Revel et ses copains ne seraient pas apparus. Hein, parce que l'assemblée a eu lieu à 9h, elle a été terminée vers midi. C'est le moment où le peuple, le bas peuple, risque de se trouver dans les rues. Alors, vaut mieux faire ça discrètement. Je pense que c'est l'explication. Parce que ce n'est pas une question de condamnation de la cérémonie religieuse. Nous n'en sommes pas encore là. Hein. Il n'y a pas du tout là d'anticléricalisme. Bon, enfin, on n'y va pas. Alors, quand le 20 septembre suivant, il s'agira de remplacer le secrétaire Saint-Just, un autre Saint-Just, hein, qui n'est pas parent avec celui dont je viens de parler, devenu trop vieux et, nous dit-on, presque dans un état d'infirmité, l'Assemblée nommera unanimement le nommé Louis-François Berry, procureur et fils du maire. Décidément, vous voyez, on a cru que ça changeait. Ça ne change pas. Les mêmes notables forment le même conseil politique si l'on accepte le jardinier Taillefer et le laboureur Maffre Lajoigny de Lossier. C'est la première fois qu'il rentre au conseil politique un paysan C'est la première fois depuis le temps de la République protestante. C'est toujours, vous le voyez, le népotisme.
L'élection fait apparaître effectivement bien peu de changements. Qui avait le droit de voter?
Dans ce cas-là, nous l'avons vu, il était réuni dans le conseil de ville, les quatre consuls, les 23 conseillers politiques qui font partie du conseil de ville, et il y avait en plus cette année-là les membres du comité patriotique de sûreté, vous vous rappelez, qui avait été nommé le 4 août 1789 et qui comportait 12 membres. Donc là, il y a eu une assemblée électorale de 23 et 12, 35 et 4, 39 personnes. C'est quand même mieux que 12, hein? Et puis il y a eu scrutin. Mais enfin, on peut pas dire que c'est une élection démocratique. Le peuple n'y a pas participé.
Oui, et dans ces conditions, n'est-il pas étrange qu'un marchand soit élu à l'unanimité?
Non, je ne le pense pas. D'abord, il faut bien quand même donner satisfaction un petit peu à Revel. On ne lui donne pas tout à fait satisfaction. Il avait demandé, lui, qu'on nomme des artisans, des gens de la campagne. Et un marchand, c'est quand même quelqu'un qui doit être bien vu. Saint-Just, c'est un homme, c'est un notable, sans doute beaucoup de gens lui doivent de l'argent, il doit être accommodant. Il est élu à l'unanimité parce qu'il n'a donné lieu à aucune critique, ni de la part des gens en place, ni des nouveaux qui ont pu apparaître. On a confiance en lui. Je crois que c'est tout à fait naturel qu'un marchand comme Saint-Just soit élu à la municipalité.
D'après cette élection, on voit, M. Julien, que le poste de maire n'est plus un office permanent maintenant à Saint-Antonin.
Oui, très bien de me poser la question. Mais rappelons donc que c'est en 1692 que Louis XIV créa les offices de maire dans les villes qui avaient des consuls. Il les créa pourquoi ? Pour se procurer de l'argent. Il décida que le poste, il y aurait un maire dans chaque commune et que ce serait un office royal. La commune avait essayé plusieurs fois de racheter cet office pour le compte de la municipalité, pour le compte de la ville. Elle l'avait fait en 1717 déjà. Mais par la suite, Louis XV, ayant besoin d'argent, avait à nouveau recréé l'office de maire et l'avait à nouveau vendu. Et c'est en 1776 que la commune de Saint-Antonin avait encore racheté cet office de maire qui était devenu un office communal. Et de ce fait, les conseillers de ville et les consuls avaient le droit de nommer qui ils voulaient comme maire, et non pas le roi ou un seigneur engagiste, etc. Donc, c'est un maire alternatif. Voilà. De toute façon, l'alerte a été chaude, mais enfin, les choses se sont passées convenablement et le nouveau conseil de ville va pouvoir entrer en fonction et gérer les affaires de la commune dans le retour au bon ordre et dans la sûreté ou la sécurité publique. Et cette sûreté publique, ce bon ordre, vous le savez, sont assurés par un organisme nouveau institué le 1er août 1789, et qu'on appelle la Garde nationale. Le 27 septembre suivant, au cours d'une grandiose cérémonie au Pré-Commun, le Pré-Commun, rappelez-vous, cette grande esplanade comparable au Champ de Mars à Paris, qui est aujourd'hui occupée par des pavillons un petit peu en désordre, là au nord de la ville de Saint-Antonin, était le lieu de rassemblement des foules. Donc une grande cérémonie est organisée au Pré-Commun. Le comte de Lastic Saint-Jal est, ce jour-là, 27 septembre, intronisé colonel de la milice nationale, après avoir reçu des mains du maire les deux drapeaux tricolores, entendez bien, nous changeons de régime, hein, les deux drapeaux tricolores tout neufs que l'on a fait faire à Montauban et qui ont coûté 62 livres chacun. Et alors le comte Lastic Saint-Jean, après avoir reçu les drapeaux du maire, a prononcé sur le drapeau le serment suivant. Serment qui, écrit de sa propre main, a été conservé aux archives. Il dit « Nous promettons à messieurs les magistrats et à messieurs les citoyens et habitants de la présente ville et communauté de Saint-Antonin de ne jamais employer la troupe dont le commandement vient de nous être confié contre les intérêts communs de la dite ville et communauté. Nous leur jurons au contraire, sur notre honneur et conscience, de concourir avec eux de toutes nos forces à maintenir le bon ordre, la paix et le repos public, et de défendre même aux dépens de notre vie celle de tous les citoyens et habitants, et voici qui est très important, tant catholiques que non catholiques, dont l'union et la fraternité seront toujours le plus sûr moyen de défendre nos propriétés et le plus sûr garant de notre tranquillité commune. » Voilà un serment qui en dit long, mais qui est très important par la phrase sur laquelle j'ai insisté, de défendre aux dépens de notre vie la vie de tous les citoyens et habitants, tant catholiques que non catholiques. Cela laisse entendre que des craintes avaient été émises et sans doute des manifestations avaient eu lieu de la part des protestants, craignant que la garde nationale étant placée entre les mains du comte de Lastic Saint-Jean, catholique, bon catholique, il n'ait à souffrir justement de persécutions nouvelles. Le même jour, c'est curieux, une cérémonie identique d'intronisation de la garde ou de la milice nationale avait lieu à Paris. Là, on n'avait pas reçu l'ordre, on l'avait fait en même temps qu'eux. Et bien souvent, nous verrons que cette milice nationale de Saint-Antonin sera presque à l'avant-garde des mouvements nouveaux. Ce document est contresigné par les membres de l'état-major qui sont le chevalier de Saint-Marie, lieutenant-colonel, Coste, major du régiment. Coste est un protestant. Aliès, orfèvre, aide-major, issu d'une famille protestante. On peut être tranquille. Voyez, le comte Lastic Saint-Jean, le chevalier de Saint-Marie, Coste et Aliès, la sûreté publique et la tranquillité des bourgeois est désormais assurée. Le 4 octobre suivant, on vient à Revel maintenant. On examine le cas Revel et on dénonce son comportement inqualifiable à Monseigneur de Saint-Priest. Voilà, ministre d'État, au commandant, je l'ai dit, en chef de la province, etc. Et seul le ministre des Postes daignera répondre aux suppliques adressées par la nouvelle municipalité au sujet de ce Revel. Il répondra que Revel aurait dû être puni par la police municipale ou d'autorité du roi, par le juge royal, et qu'au surplus, la plainte a été longtemps, trop longtemps, différée. Et voilà comment on répond maintenant. En d'autres temps, on aurait donné évidemment satisfaction au maire Berry et le pauvre Revel aurait certainement été envoyé en prison. Là, c'est trop tard. L'affaire Revel est close. Mais la crainte du retour d'incidents aussi fâcheux habite l'esprit des notables qui paraissent, dès lors et en permanence, obsédés par l'éventualité d'émeutes du bas peuple. Cette préoccupation va dicter pendant des mois toute leur conduite et les décisions du conseil de ville.
Oui, je suis un culot de moi, oui, je suis un culot de moi, oui, je suis un culot de moi.
Vive le son, 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 vive
Cette obsession permanente dont je viens de parler, au sujet de troubles ou d'émeutes, on en trouve la confirmation à tout moment, et en particulier le 8 novembre 1789, lorsque le Conseil de Ville décide un emprunt extraordinaire de 6000 livres. 6000 livres, c'est presque le budget des charges locales, le budget municipal. Après que le maire Berry eut fait un tableau touchant de la misère qui désoloit ce pays, qui a vu de pauvres gens vendre jusqu'à leurs chemises pour se procurer de quoi subsister. La disette et le manque de travail a plongé dans l'indigence des centaines et des centaines de malheureux du bas peuple. Je l'ai dit ça, l'hiver 1788-1789 avait été terrible. Et le peuple avait faim. L'hiver arrive. Alors, il faut trouver une solution. Pour convaincre l'Assemblée de la nécessité d'emprunter cette somme énorme, savez-vous quel argument avance le maire? Est-ce un appel à la solidarité? Est-ce un appel à la charité chrétienne? Est-ce un appel à la simple compassion? Point du tout. Écoutons-le. Il se lève et il dit: il n'y a point, messieurs, de temps à perdre. Le seul, l'unique moyen de prévenir des troubles plus cruels, plus dangereux même que ceux qui nous agitent depuis plus de 3 mois, c'est de pourvoir à la subsistance des individus qui courent le risque de manquer de pain. Parce que l'indigent, messieurs, s'il n'est secouru, se livre aisément au désespoir. Il n'est point d'extrémité à laquelle il ne puisse se porter, lorsque, mourant de faim, il serait sans ressources et abandonné de tout l'univers. De là les émeutes, les séditions, source funeste des malheurs qui déchirent la France et dont le récit vous a fait frissonner d'horreur. Voyez l'assistance qui tremble rétrospectivement à l'image de cette grande peur et qui imagine ce que ça pourrait être si tout ce peuple affamé se livrait à des émeutes et à des séditions. Le silence règne dans la salle. Alors le maire continue: il n'est point de meilleur parti à prendre que de tendre une main secourable à celui qui, manquant absolument de tout et n'ayant en conséquence rien à perdre, peut impunément et tout oser et tout entreprendre. Ces sages et cyniques raisons emportent l'adhésion unanime des bourgeois du Conseil, trop heureux de se tranquilliser. L'emprunt est décidé, séance tenante, on ne discute même pas. Et pourtant 6000 livres. Et on décide alors les modalités d'utilisation de cet emprunt. On utilisera la moitié de l'argent, 3000 livres, à l'achat de blé. Et alors là, je voudrais apporter une précision. C'est justement Saint-Just, le marchand, qui sera chargé d'acheter le blé. Et alors, on va faire même les choses parfaitement cette fois. Je ne sais plus combien de sacs de blé il achète. Le blé se vendait par sac, n'est-ce pas? Il achète un certain nombre de sacs de blé. Il en fait moudre un certain nombre, je crois, un sac. Et je pourrais tout raconter, mais ce serait trop long. Ce sac de blé acheté, on le porte au moulin du Gravier. Vous savez, sur le petit chemin qui va à Marsac. Et ce blé, il le fait d'abord laver. On raconte tout là. Il le fait laver dans l'eau de l'Aveyron, il le fait sécher, il le donne ensuite, une fois sec, à moudre au moulin du Gravier, qui appartenait à ce moment-là à Monsieur le comte de Lastic. Le blé est moulu, on en fait fabriquer du pain, et grâce au prix qu'a coûté ce sac de blé, le marchand Saint-Just, un bon comptable, a dressé un état dans lequel il fait ressortir que si le sac de blé coûte 17 livres, la livre de pain doit être vendue 2 sous 3 deniers. Et il dresse un tableau, parce qu'il se rend bien compte que le blé risque d'augmenter. Alors il fait un tableau, comme une sorte de... un état, hein, en fonction du prix du blé acheté au sac, on aura le prix du pain. Autrement dit, on introduit une taxe préalable du pain. On saura que le pain se vend tant. C'est très curieux. C'est une parenthèse que j'ai ouverte, hein, peut-être sans intérêt, mais enfin qui vous montre, par exemple, mesdames et messieurs qui ne le saviez pas, que le blé autrefois était lavé avant d'être moulu. Les 3 autres 1000 livres de la moitié de l'emprunt vont être consacrés à l'ouverture d'ateliers de charité. Un atelier de charité, c'est un chantier de travail qui vont être ouverts sur les avenues de la ville et la côte rodanaise.
Oui, que se passe-t-il, monsieur Julien, dans ces ateliers de charité et ces chantiers de travail?
Voilà, cette mesure n'était pas nouvelle. Déjà sous l'Assemblée de Haute-Guyenne, quelques années auparavant, en des années difficiles aussi, on avait essayé de procurer de la nourriture aux indigents, valide, ceux qui étaient indigents mais qui pouvaient travailler et qui n'avaient pas de travail, en ouvrant ainsi des chantiers, qui étaient essentiellement des travaux publics. Ici, on va aménager, par exemple, j'en avais parlé aussi, les abords de la ville, la terrasse du Tour du Pré, la terrasse des Carmes. On aménagera les fossés, on nettoiera les fossés. Par exemple, le fossé du Vallon, là, devant la maison de Madame Beyrou, c'était une véritable fondrière, c'était une ordure. Or, déjà, on a l'intention d'y établir un foirail. Alors là, on utilise tous les gens sans emploi, les malheureux, les indigents qui crient famine, et on les fait travailler. On ne les paie pas cher, bien sûr. Même dans les moments difficiles, on ne leur donne que la nourriture pour la journée de travail. Hein. On ne les paie pas en salaire. C'est ça. Mais à partir de là, les chantiers de travail vont beaucoup se répandre. On les trouvera sous la Deuxième République au mois de mai 1848. Et aujourd'hui, au fond, dans certaines administrations, dans certaines municipalités, qu'est-ce qu'on fait sinon des chantiers de travail pour occuper les chômeurs, mais d'une façon beaucoup plus élégante, mais enfin, ça revient au même, hein.
Madame Pétou avait promis, Madame Pétou avait promis, de faire les gorges tout Paris, de faire les gorges tout Paris, mais son coup a manqué, grâce à le canonnier. Dansons la camagnole, vive le son, dansons la camagnole, vive le son du canon.
Ainsi finit à Saint-Antonin la première année de la Révolution française, que les bourgeois locaux ont su bien maîtriser, cependant que le bas peuple reste dans une triste condition. L'aube de l'ère nouvelle pour lui ne s'est pas encore levée, et il n'aura pas de sitôt voix au chapitre.
Oui, y aura-t-il droit un jour ?
Oui, il y aura droit pendant ce qu'on a appelé la période de la terreur, période qui représente pour beaucoup de Français aujourd'hui, malheureusement, une véritable abomination, parce que le mot terreur seul fait une image si effroyable que c'est à ce moment-là que le peuple de Saint-Antonin aura voix au chapitre, qu'il aura le droit de voter, par exemple. Mais il faudra attendre 1793 et 1794.